Setlist.
Salut à tous et bienvenue sur RTL. Merci de passer cette première heure de la semaine avec nous. Et quand je dis nous, je parle de mon invité de ce soir. C'est sans doute le seul artiste, et j'ai la prétention d'en avoir croisé quelques-uns, dont je peux vous dire que je fus d'emblée devenu fan de son travail. La première fois que je l'ai croisé, c'était en 95, il y a 20 ans. Je devais rester une demi-heure, on a finalement bavardé quasiment toute l'après-midi. Et dès ce jour-là, j'ai su que plus j'admirais son travail, j'aimais l'artiste et j'aimais l'homme. On n'est pas des amis, ni même des copains, juste bonnes, enfin je l'espère, relation de boulot. Je pourrais vous en parler des heures, son élégance, l'exigence de son travail, son acuité, son humour, simplement ses arrangements, ses compos, ou mieux ses textes, qui ont fait de lui un artiste majeur, inspiré et inspirant pour beaucoup, et ce depuis des décennies. Mais sinon, je vais parler pendant toute l'émission, ce serait dommage de ne pas présenter Étienne Daho. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Eric,
ça me fait plaisir de t'avoir un dimanche soir. Alors il est minuit et presque 4 minutes, qu'est-ce que tu fais en règle générale Étienne? Un dimanche soir à minuit 4, est-ce que tu fais dodo?
Oui, depuis quelques années, je me couche plus tôt. J'ai découvert le matin. J'ai découvert les premières heures du
moi,
matin.
Pas encore.
Je me réveille à l'heure à laquelle je rentrais il y a quelques années.
Ouais, j'ai vu ça d'ailleurs dans, je sais plus si c'est dans le documentaire ou dans le bouquin là qui sort dans la bande dessinée où tu disais que autrefois tu travaillais en arrivant de fête et maintenant tu te couches tôt et tu travailles à 6h du matin.
Oui, je trouve que les idées sont plus claires avant d'être polluées par le téléphone, par les mails et tout ça. Donc de se mettre au travail tout de suite, c'est beaucoup mieux. J'ai eu des idées que j'aurais jamais eues, je pense.
Alors triple actualité pour Étienne, c'est la raison pour laquelle cette semaine va être chargée pour toi. Il y a un documentaire formidable que j'ai eu la chance de voir avant tout le monde qui s'appelle Itinéraire Pop Moderne, signé Antoine Carlier. Ça va passer sur Arte le 21 novembre, 22h20, avec un concert inédit enregistré au Coco à Londres. On y reviendra sur cette promo-là. Je me suis juste posé une question en regardant tout ça. Toi qui maîtrises tout, la production, l'écriture des albums, comment t'as fait pour lâcher prise?
Ah, c'est dur. C'est dur, mais...
D'abord, est-ce que t'as lâché prise?
Oui, j'ai lâché prise parce qu'en fait, je pense ne pas avoir un bon œil sur moi. Et que je pense que c'est bien de laisser... à partir du moment où on a fait confiance à quelqu'un, de le laisser faire.
Ouais.
Autrement, c'est très frustrant pour tout le monde. Et si j'ai choisi Antoine, justement, c'est parce que je sais que c'est quelqu'un qui a une vision qui me semble être assez juste, assez réaliste. Et que ça permettait de faire un film qui soit pas un truc de brosse à reluire, comme tous les documentaires, mais qui soit un film où on parle vraiment de la personne et de son travail. Parce que c'est vraiment ça la chose la plus importante de ma vie, c'est la musique. Je suis traversé par ça, et je pense que ce film en parle bien.
Il y a aussi une BD réalisée par le dessinateur Alfred et le scénariste David Chauvel. Alors, L'homme qui chante, c'est une sorte de documentaire en bande dessinée. C'est sorti en octobre dernier aux éditions Delcourt. Ouais, j'ai eu l'impression de lire un documentaire sur toi.
Oui, c'est intéressant. Quand j'ai reçu la proposition d'Alfred et David Chauvel, au-delà du fait que je trouvais que les dessins d'Alfred sont vraiment bien intéressants, très expressifs, ça permettait de montrer mon travail d'une manière un peu différente. Parce que souvent, quand on fait des interviews, on a l'impression que la dernière chose qui intéresse les journalistes, en fait, c'est le travail. C'est vrai que le travail, c'est pas très sexy. On n'a pas envie de voir la besogne, on n'a pas envie de voir comment on arrive à ce qu'une chanson soit bien, qu'on se dise voilà, c'est là on est arrivé à son petit rêve, on est arrivé vraiment à ce à quoi on avait rêvé. Et donc accepter d'avoir David, Alfred près de moi partout en studio, ils m'ont suivi à des moments clés de l'enregistrement, les maquettes, l'enregistrement, la promo, la tournée, toute l'aventure.
Ouais, c'est rigolo et c'est vachement intéressant en fait. Et puis alors,
ils ont anticipé en plus parce que cet album a été un moment extrêmement important pour moi. Enfin, j'ai l'impression d'être passé à autre chose, d'avoir franchi une étape. Je sais pas si c'est moi qui l'ai franchi ou si c'est les médias qui m'ont vu différemment ou le public qui m'a perçu différemment. Mais j'ai eu la sensation qu'il y avait une espèce de respect et de bienveillance.
Ouais, j'en ai toujours eu, Étienne.
Ou alors peut-être que j'ai ressenti à ce moment-là d'une manière un peu plus intense.
Moi, je ferais plutôt la liaison avec ce que tu disais sur la chanson Boulevard des Capucines, qui est peut-être la dernière chanson où t'as fini de tourner autour de ton nombril et que t'es passé à autre chose. Et le autre chose, c'est justement l'album d'après.
Oui, c'est vrai.
C'est peut-être aussi ça, l'une des explications, en tout cas, l'une des clés.
Oui, de toute façon, il doit y avoir des explications auxquelles j'ai pas de réponse, mais j'ai ressenti vraiment ce passage.
Ouais.
c'est très bon. Non mais vraiment. Enfin, je dis ça alors que j'ai toujours été un enfant gâté, véritablement. Ouais. Pouvoir faire ce qu'on aime au bout de plus de 30 ans, voire 35 ans, d'être toujours là. Franchement, c'est un cadeau parce que c'est pas soi-même. Ça dépasse sa propre créativité. C'est les gens qui décident que vous êtes une voix pour eux, qui vous élisent d'une certaine manière.
Probablement. Mais justement, ça nous amène à la troisième actualité. Ça fait beaucoup hein, pour une seule promo. 17 ans après la sortie de single, vendredi, c'est sorti L'Homme qui marche. 36 titres remasterisés, parmi lesquels des inédits, qu'on écoutera d'ailleurs dans le courant de cette émission. Ça fait beaucoup en promo d'un coup. Et je sais qu'en plus, tu fais des shortcuts en promo. C'est-à-dire que c'est pas des longues promos. C'est quoi l'enjeu d'une promo comme celle-là, Étienne? Est-ce que tu as un deal avec les uns et les autres?
Ah non. Je pense à un moment parce que c'est trois belles années consécutives, ouais. Et ces trois belles années consécutives, elles se concrétisent par la fin d'une tournée qui s'est terminée à Rock en Seine. C'était vraiment une tournée vraiment exceptionnelle qui a duré.
Je suis à La Rochelle, moi j'ai vu la.
Alors La Rochelle, c'était un peu compliqué parce qu'on a eu une panne de console. Et je crois que sur tous les premiers titres, il y a eu des interruptions.
Ouais.
Je l'ai su qu'après, donc j'étais mais vraiment au 36e dessous vraiment parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué à La Rochelle, qu'il y avait une attente et tout ça, et donc ça m'a vraiment beaucoup contrarié qu'il y ait eu ce problème.
Rassure, ça a pas contrarié grand monde dans le public en tout cas.
Ah bon,
en tout cas,
c'est vrai.
Non sérieux.
Ah ouais, tant mieux.
J'ai vu en tout cas. Alors durant la première heure de cette émission, c'est moi qui vais programmer les disques et la deuxième heure, c'est toi qui me fera découvrir. Tu m'as dit des choses. J'ai commencé par les Clash avec London Calling. C'est du pur premier degré. On va les écouter puis on débrief après. Tu
d'accord.
Étienne Dao sur RTL dans la première heure. c'est Étienne Dao, notre invité de la première heure sur RTL. J'ai choisi le premier titre qui m'est venu à l'esprit sur London, puis Clash, je trouvais que ça t'allait bien. Londres, alors c'est ville source pour toi.
Depuis toujours.
Ouais, l'adolescence,
depuis l'âge de 14
l'hôtel.
Ans. Oui.
L'hôtel, alors je précise, hein, tu bossais dans un hôtel, c'est ça?
Oui, j'avais trouvé un job dans un hôtel à Manchester, c'était pas à Londres.
Ouais.
Ça s'appelait Porter, et il fallait que j'amène les valises dans la chambre des gens. Mais c'est très instructif comme expérience, parce que comme j'avais 14 ans, j'étais complètement naïf et tout ça.
Et
donc je me suis retrouvé dans des situations un peu compliquées parfois.
Alors
avec des clientes et des clients un peu trop empressés.
Et tu t'en sors comment?
Ça apprend la vie, en accéléré.
Et comment on peut à 14 ans se retrouver dans un hôtel à Londres, à bosser, enfin à Manchester?
Parce qu'en fait, j'avais une amie de ma famille, ouais. Je vivais avec ma mère qui avait pas beaucoup de moyens, et ouais. C'était une manière d'avoir de l'argent de poche pour avoir une mobilette, m'acheter des disques et tout ça. Donc,
oui, mais à Londres quand même, c'est un truc très
particulier. Oui, j'écoutais tellement de musique anglo-saxonne que j'avais envie de travailler en Angleterre pour apprendre l'anglais, et puis pour pouvoir... voilà, c'était une grande bouffée de liberté. J'ai appris beaucoup de choses pendant cet été-là. Je fais beaucoup d'expériences et ça m'a fait mourir.
Qui ont fabriqué l'oiseau.
Oui, puis je suis allé à des concerts, j'ai rencontré des gens, je me suis drogué pour la première fois. Enfin bon, il y a eu plein d'expériences multiples et variées qui ont fait que voilà, ça a été un déclic. Voilà.
Je voudrais revenir deux secondes à la promo. La promo, c'est un passage obligé, c'est un exercice marrant. Comment tu gères, toi, Étienne? Parce que t'es assez parcimonieux, quand même, dans la promo.
Oui, j'aime bien avoir le temps d'expliquer les choses, j'aime bien avoir le temps, et j'aime bien aussi avoir le luxe d'avoir des interlocuteurs avec lesquels je peux exprimer des choses. Donc c'est vrai que je suis assez rare en promo, pas trop en presse, pas trop en radio. C'est même au-delà de la rareté en télé, parce que la télé, vraiment, c'est un truc qui me pétrifie. Donc j'y vais pas.
Ouais, mais je peux comprendre, moi non plus j'aime pas trop ça.
Mais je comprends l'impact de la télé. L'impact de la télé est énorme, vraiment. Moi je fais pas de télé, il y a des gens qui me disent parfois encore, est-ce que vous faites toujours de la musique? C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on passe pas la télé,
ouais.
On n'existe plus. C'est fou, hein. C'est impressionnant.
Dans la BD, il y a une phrase de toi qui dit: dans un talk show, j'ai pas peur des attaques, j'ai peur de moi.
Oui, bien sûr.
Mais pourquoi?
Parce que je sais pas comment je vais réagir. Je trouve que on est vraiment dans un moment où on est obligé d'assister à son procès. Et moi, j'ai pas du tout envie de mettre.
Ouais.
J'ai pas envie de me déplacer pour assister à mon procès. Je veux qu'il y ait du respect, quoi, pour les artistes, pour moi, mais aussi pour les autres. Et je trouve que il faudrait pas se plier à l'exercice d'aller dans l'arène, se prendre des coups de patte.
Oui, je pense à l'émission de Laurent Ruquier,
du pain et
notamment.
Des jeux, quoi.
Ouais.
Je vois pas l'intérêt. Je trouve que ça dessert tout le monde parce que ça ne montre que les mauvais côtés de tout le monde, finalement.
Dans la BD aussi, t'évoques qu'un événement extérieur à ton travail, et en fait ça m'a choqué parce que je m'en suis rendu compte en lisant la BD. Il y a un truc qui peut polluer ton travail. Toi, tu viens en promo pour parler de ton boulot, et
oui.
Puis soudain tu donnes deux exemples. 96, la rumeur selon laquelle t'étais mort du SIDA, c'est l'album Eden.
Ah oui, c'est vrai, il y a ça.
Et ça pollue. Non mais et je comprends plus. Après coup, je comprends. Et puis tu parles après de la chanson Boulevard des Capucines, justement, où tout le monde n'a parlé que de ça, qui est la relation avec ton père, et qui cette fois-ci a pollué en quelque sorte l'album L'Invitation. C'est très étrange aussi ça. Faire passer ce message, moi je me rendais pas compte de tout ça.
Alors Eden, effectivement, j'ai été pollué par cette rumeur de sida et de mort du sida, parce que quand je suis revenu, je me disais naïvement, c'est une connerie, voilà, plus personne n'en parlera dans 6 mois.
Tu parles.
Et en fait, ça a été, cette rumeur est devenue une réalité, en fait. Ce qui fait que j'avais passé 2 ans à essayer de faire l'album de mes rêves, enfin, vraiment un album qui était, pour moi, créativement, le meilleur album que j'avais jamais fait.
En plus, t'étais bronzé sur la pochette.
Et je rentre en France, on me parlait que de ça, donc c'était très perturbant et ça me rendait dingue que les gens passent à côté d'un album qui me paraissait être bien meilleur que ce que j'avais fait avant pour me parler d'un truc qui était une rumeur à la con, qui était un truc qui ne me concernait même pas.
Ouais.
Enfin. J'avais la chance que ça ne soit pas vrai.
Oui, on connaît l'histoire.
Bon, voilà.
Après, il y a Boulevard des Capucines, et puis alors sur le dernier album.
Mais Boulevard des Capucines, c'était différent parce qu'en fait, là pour l'instant, c'est une vraie histoire dont j'ai été obligé de parler parce que quand j'ai commencé la promo avec cette chanson, les gens comprenaient que j'allais voir un autre chanteur et que je me projetais comme un chanteur mature et que j'avais comme un regret de voir quelqu'un qui émergeait. Alors je sais pas qui ils avaient en tête, mais
Très étrange.
Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, une chanson, faut pas trop expliquer des fois les choses, parce qu'il vaut mieux laisser les gens imaginer ce qu'ils ont envie d'imaginer, mettre leurs propres histoires, kidnapper la chanson pour qu'elle devienne leur. Mais là, c'était, je pouvais pas. Donc je l'ai dit une fois, et après...
Tache d'huile.
C'était foutu.
Ouais.
Je l'ai regretté au début, je le regrette plus maintenant. Et je me suis rendu compte que c'était en fait... Il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont, disons, une complexité dans leur rapport avec le père... Je suis pas le seul. Et du coup, le fait que cette chanson soit devenue très universelle, qu'elle ait autant touché les gens, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai eu raison de qu'elle existe.
Ouais, voilà. Mais sur le coup, et je dois t'avouer un truc, je me souviens t'avoir interviewé, t'avoir posé la question et senti que ça te mettait mal à l'aise.
Non, j'en avais marre, en fait, parce que
ça m'a mis mal à l'aise, moi, vachement.
C'est-à-dire que c'était comme une porte d'entrée dans l'intime.
Je comprends.
Et que je me sentais un petit peu contraint de raconter des choses. Parce qu'en fait, je me souviens d'une interview avec un journaliste. Et donc, je lui racontais l'histoire telle qu'elle était, et ça lui suffisait pas. Je sentais qu'il était contrarié, parce qu'il avait l'impression que je cachais des choses par rapport à cette histoire. Et en fait, je cachais pas grand chose. Je racontais vraiment les choses telles qu'elles s'étaient passées. Cette culpabilité d'avoir jeté mon père de l'Olympia en 86.
Ouais.
C'est pas anodin d'être abandonné, quelqu'un qui réapparaît tout d'un coup, out of the blue, et qui arrive à l'Olympia avec toute sa famille. C'est très choquant. Surtout qu'il y avait ma mère qui était dans la salle et que ma mère n'avait pas vu mon père depuis 63 ou quelque chose comme ça. C'était vachement violent. Donc j'avais dit dehors. Et après coup, virer son père comme ça, c'est très difficile. Et surtout qu'il a essayé de me contacter par courrier. J'ai vraiment fermé la porte, quoi. Et donc j'ai vécu avec cette culpabilité très longtemps. Et puis quand ce paquet de lettres est arrivé, que j'ai lu cette lettre et que j'ai fait cette chanson, bien sûr, ça m'a libéré. J'ai mis un terme à un des sujets qui me taraudait depuis longtemps. On en a toujours plein, mais celui-là, c'était quand même un maus, quoi.
Dernière chose, est-ce que la fameuse péritonique qui a fait flipper tout le monde, ça a pollué aussi justement la promo du dernier album?
Ça n'a pas pollué avec le recul.
Oui,
je vois ce que tu veux dire.
Tu vas mettre un coup de zoom, alors pas que ça aille, quoi.
Non, mais ça n'a pas pollué parce qu'en fait, une fois qu'on a retardé le disque et retardé la tournée, ce qui était assez brutal au départ, après ça s'est bien passé parce que les gens ont complètement oublié. Parce que moi, j'étais tellement dans le déni. À l'hôpital, je faisais les interviews au téléphone, je m'occupais de la pochette et tout ça. Je ne voulais pas laisser tomber ce disque. Je ne voulais pas mourir, en fait. Voilà. Et comme je voulais pas mourir, je suis pas mort.
Juste une question qui t'as parlé à plusieurs reprises de ça, mais t'as vraiment cru que t'allais y passer à un moment?
Ah oui, mais ils m'ont perdu pendant quelques secondes. Oui, oui.
Sérieux?
Ah oui, puis je peux pas rentrer dans les détails, mais consécutivement à ça, il y a eu deux épisodes où j'ai failli encore mourir deux fois en plus. De déshydratation, enfin c'était un drôle de moment, mais que j'ai très bien vécu en fait, parce que j'étais tellement plein de l'album qui allait sortir que je voulais pas le laisser tomber, que ça a été, je me suis raccroché à ça, et donc j'ai zappé complètement la gravité du truc. Ça m'a permis d'en sortir. Alors j'ai fait des promos un peu trop tôt, je crois. J'ai fait les Victoires de la musique notamment, où j'étais dans un état dramatique. Je tenais pas debout, j'avais 13 kilos en moins, j'avais un filet de voix. Enfin, ça va faire rire ceux qui pensent que de toute façon, quoi qu'il arrive, malade ou pas, je n'ai qu'un filet de voix. Mais je m'en fous.
Et je m'en suis inspiré de ce filet de voix pour faire de la radio.
J'aurais pas dû me montrer si tôt. Mais à part ça, parce qu'à l'époque, je pensais que j'étais guéri.
C'était peut-être aussi, ça faisait partie aussi de la
guérison. Ça faisait partie de la guérison,
ouais.
Bien
ouais.
Sûr. Et puis après, la tournée a été tellement magnifique, vraiment fantastique.
Dernière question sur la promo. Ardisson a déclaré, ça m'a fait hurler de rire, que le secret d'une interview réussie, c'est l'alcool. T'en penses quoi?
Non, je crois pas, moi. Surtout avec lui.
On va écouter une chanson maintenant. C'est une des deux chansons inédites. On l'écoute et puis tu vas me raconter l'histoire après. Je t'ai déjà entendu la raconter, mais je la trouve formidable, cette histoire. Daniel Darc, La Ville. On connaît la chanson en solo, on la connaissait pas en duo. Désormais, c'est le cas grâce à Étienne Dao. On écoute la chanson sur RTL et puis ensuite on débriefe.
La ville est pleine de gens. La ville est pleine de méchants. La ville est pleine de bruit. La ville est pleine de cris. La ville est pleine de flics. La ville est pleine de trafic. La ville est pleine de tueurs. La ville est pleine de voleurs. qu'est-ce que ça peut faire? Juste la vie, hein. La ville est pleine de putes, la ville est pleine de disputes, la ville est pleine d'ordures, la ville est pleine de blessures.
La ville, Étienne Dao et Daniel Darc. Alors, l'histoire de la chanson, Étienne, c'est qu'en fait, tu devais travailler avec Daniel. Il t'avait proposé de faire un album, mais tu pouvais pas faire un album avec lui.
Oui, à l'époque, c'était impossible. J'avais pas le temps. C'était au moment où Vie Martienne était sorti et c'était une espèce de truc. J'étais dans un espèce de tourbillon. Et donc j'ai pas pu faire l'album à ce moment-là, mais on a fait une chanson. J'ai produit cette chanson pour lui. Et on avait fait à l'époque, comme ça, pour se faire plaisir, une version duo qui n'était jamais sortie, auquel j'ai repensé à un moment donné, et j'ai revu Daniel peu de temps avant qu'il s'en aille. Et je lui en ai reparlé, je lui ai dit, tu te souviens ce duo, ce serait bien de le sortir. Il m'a dit, ouais, ce serait une super idée. Mais à partir de ce moment-là, impossible de mettre les mains sur les bandes. J'avais récupéré une multitrack sur laquelle il n'y avait pas toutes les voix de Daniel, il n'y avait pas la mienne, il manquait l'accordéon, tu sais. Enfin, on ne pouvait pas remixer, quoi. Et par chance, en allant chez ma mère, en faisant du ménage, j'allais jeter un carton, et puis, comme ça, l'instinct, j'ai mis ma main dans le carton, sous le papier bulle, il y avait un DAT. Truc magique, hein.
Et dedans, il y avait les bandes de voix.
Dedans, il y avait, parce que je gardais toujours des copies de mes productions.
Ouais.
Mais là, celle-là, je l'avais pas retrouvée. Je savais pas où c'était. C'était à Rennes, parce que j'ai vécu dans tellement d'endroits. Il y a plein d'affaires à moi qui sont un peu dispersées partout, à Londres, à Lisbonne, à Rennes, à Paris.
C'est une idée que j'ai attrapée en regardant le documentaire, qu'en fait, tu gardes tout.
J'ai pas gardé tout au début, donc il y a beaucoup de choses que j'ai pas parce que je les ai perdues chez plein de gens. J'ai laissé beaucoup de choses chez plein de gens. Et après, j'ai commencé à garder, ou alors on m'a renvoyé des choses.
Ouais.
On m'a dit, tiens, t'avais oublié ces manuscrits de mythomane. J'ai retrouvé les manuscrits de mythomane, toutes les textes écrits à la main, des notes, etc. Ou alors des cahiers d'enregistrement. Le cahier d'enregistrement de Pop Satori, par exemple, il était resté à Lisbonne.
Tu sais qu'aux enchères sur eBay, ça vaut une blinde.
Ça vaut une blinde pour moi.
Oui.
Ça vaut une blinde pour moi, pour émotionnellement.
Ouais, bien sûr, bien
Parce
sûr.
Parce que c'est mon travail, c'est ma vie, quoi.
Et pour en revenir à Daniel, t'as retrouvé les bandes, mais alors du coup, vous avez refabriqué la chanson autour de.
C'est-à-dire qu'en
voix.
Fait, il y avait trois pistes. Il y avait le playback, la voix de Daniel et la mienne. On a masterisé. Et c'est vraiment une belle version, je trouve. C'est très très beau, quoi.
Ouais.
Vraiment, c'est une belle chanson. C'est une belle prod, c'est un beau moment entre nous.
Ouais, j'imaginais un enregistrement en pleine nuit, tout ça pour parler de la nuit, parce que je me suis souvent dit que t'étais un oiseau de nuit, alors tu viens de me dire le contraire, mais t'as longtemps été un couche-tard.
Ah oui, bien sûr.
C'est quoi ton rapport avec la nuit?
Non, mais c'est le, j'ai découvert le matin, en fait, à Ibiza. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est vrai que j'étais un fêtard. La première chose qui m'intéressait en arrivant dans une ville, c'est où on sort. Et ça m'a duré très très tard, enfin, puisque encore à 45 ans, je sortais tous les soirs, etc. Et je suis parti à Ibiza pour passer 2 mois pour écrire un album qui s'appelait Révolution.
Ouais.
Et pendant 2 mois, j'ai vécu tout seul. Je voulais personne avec moi. Et alors que je vivais seul, mon corps a changé...
De biorhythme.
Oui, j'avais faim très tôt, je voulais me coucher très tôt, donc je me levais très tôt. Et j'ai découvert ça pendant ce moment-là, et ça a complètement changé. Je me suis mis à l'envers de la vie que j'avais avant, en 2 mois.
Et du coup...
Et j'ai gardé ce rythme.
Comment ça se passe
Je trouve que le matin, c'est fantastique. Pour aborder la journée, on a le temps voilà, de faire un peu de sport, de faire un peu de méditation, de penser à ce que les choses vont être.
Mais t'as arrêté de faire la fête?
Non. Non, mais comme je suis beaucoup à Londres, je la fais à l'anglaise, c'est-à-dire que je dîne à 18h30 et je rentre chez moi à 11h.
À minuit, je suis bourré, c'est cool.
Voilà, c'est ça, je suis rentré déjà chez moi, je suis allé dîner, j'ai vu un concert, je suis allé boire des coups avec des gens, ouais. J'ai fait plein de choses, mais je peux quand même avoir ce rythme.
Ouais, je comprends. Il faudrait qu'on parle du processus de création d'une chanson. Tu parles de tes carnets. Tes petits carnets, t'as toujours des carnets d'écriture. Là, tu parlais du carnet de Pop Satori, par exemple. C'est quoi? C'est des carnets manuscrits? Tu notes des idées, des impressions?
Oui, je note tout. Je note tout. Quand j'ai fait le dernier album, notamment, mon truc, c'est de marcher, de faire des photos. Je fais aussi des photos en parallèle. C'est de marcher dans des villes. Londres, c'est fantastique pour marcher parce que c'est très grand.
Ouais.
Donc, je découvre des tas d'endroits improbables dans lesquels je serais jamais allé en marchant, en me laissant aller au gré de la musique que j'ai dans les oreilles.
Donc, t'as une musique, mais ça peut être n'importe quoi.
Non, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que j'ai composé les musiques, le processus des textes est toujours un processus beaucoup plus laborieux. Et j'écris beaucoup. J'écris un cahier par chanson, par exemple.
Ouais, ça c'est
pour ne conserver qu'un truc qui a l'air tout simple et qui a l'air d'être envoyé comme ça de manière spontanée.
C'est ça qui a l'air intéressant dans ce que tu disais tout à l'heure lors d'une conférence de presse à laquelle j'ai assisté, puisque tu vas rééditer tous les albums, mais avec justement les informations, peut-être pas globales, mais en tout cas beaucoup d'informations qui sont autour des chansons, qui font que de beaucoup d'infos, on fabrique 20 vers et une chanson, c'est ça?
Oui. c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaie d'alléger à chaque fois et d'arriver à l'émotion la plus authentique, l'émotion première de ce qu'évoque la chanson, de comment je vais la partager avec quelqu'un, comment elle va aller directement dans le cœur de quelqu'un, et avec des mots et des phrases qui sont simples, les plus simples possibles, et en conservant aussi des images qui vont évoquer, qui vont permettre
de
s'évader. Je sais pas si c'est, enfin, premier degré, j'en sais rien.
J'ai associé simple et premier degré. Peut-être je me gourre, hein.
Mais la simplicité, c'est très dur. C'est très dur de faire simple, en fait. Ouais. Et c'est l'obsession de l'écriture pour moi, c'est de simplifier au maximum. Et que je pars d'un cahier de 60 pages pour en faire 3 strophes, 2 couplets.
Ça a commencé quand, l'écriture, la chanson, la musique pour toi?
Quelques heures après ma naissance.
C'est vrai?
Ah oui. Très petit.
Je conseille à tout le monde de regarder le documentaire. Moi, j'ai découvert les images de d'Oran. Non, mais c'est mignon. Enfin, c'est chouette. Et déjà là, il y avait la musique dans ta tête.
Toujours.
Ouais.
J'ai toujours eu une musique dans la tête. Et quand j'arrête de parler, j'ai une musique dans la tête.
C'est vrai?
Toujours. Ouais. Toujours. Je suis une machine à fabriquer de la musique en permanence. Plus des musiques que des textes, d'ailleurs.
Mais il a fallu que tu apprennes d'urgence un instrument pour pouvoir sortir
ça. Alors je joue de la guitare, mais juste pour moi, pour trouver les accords, pour accompagner les mélodies. Et puis voilà, je fais tout au chant maintenant, donc je chante tout aux musiciens. C'est-à-dire que le truc, c'est de trouver les musiciens, de les amener à cette idée que tu as dans la tête, qui est très précise. Pour moi, un album, il est fini avant d'être commencé. J'ai tout dans la tête. Il est fini, mixé.
Ouais, le plus compliqué, c'est de le mettre sur le papier, enfin, ou de le mettre sur la bande.
Après, c'est d'amener tout le monde à ça, quoi.
Non, mais ça explique aussi certaines images où on te voit ultra tatillon sur une console à faire refaire au piano 1000 fois un son parce que tu trouves que...
Oui.
Mais c'est ni un reproche.
Mais en même temps, seul le résultat compte. Donc, c'est vrai que je suis exigeant avec les gens avec lesquels je travaille, mais je le suis aussi avec moi. Mais que ce soit les autres ou moi-même, Le résultat, c'est une grande satisfaction. C'est par exemple quand je fais travailler les batteurs, parce que avec les batteurs, je suis le cauchemar des batteurs, parce que d'abord je leur arrache les cymbales. Je veux pas qu'ils jouent de cymbales, parce que après ils ont pas, enfin ils sont moins dans le truc tribal. Et puis ensuite, je leur chante tout, parce que c'est presque l'instrument le plus important avec la voix. Tout ouais. Par-delà, batterie voix, comme dans les enregistrements de soul.
Étienne Dao et la première heure avec les Comatines. Oh, c'est vraiment des copains à toi.
Oui, oui. Je les ai rencontrés en 83. J'ai fait un concert à New York où ils étaient là. Où je faisais un concert avec Nina Hagen à la Danceteria. Et puis, après, quand ils ont tourné en France, j'intervenais sur deux titres comme un espèce de guest, comme ça. Je chantais deux titres et jouais du tambourin.
Ouais.
Mais ensuite, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Vraiment, il y a d'ailleurs... quelque chose qui va ressortir, qui est un EP avec des chansons qu'on a fait ensemble,
ah ouais.
qui sont jamais sorties. Et puis surtout, on a fait des chansons ensemble, comme Soudain, Retour à toi. C'est vraiment des gens avec lesquels je suis très très proche, vraiment.
Quand on fabrique le tracklisting d'une tournée, tu dis c'est comme si je faisais une programmation de radio. C'est dans
oui.
la BD que tu dis ça. Quand on fabrique le tracklisting d'un best-of...
J'espère que c'est une programmation radio, mais là, si tu veux, c'est-à-dire que l'ordre s'impose de lui-même, à savoir que ce sont tous les singles dans l'ordre chronologique.
Ouais.
Dans le best-of de 98, justement, je partais d'aujourd'hui jusqu'à 81,
ouais.
parce que c'était une période où je souffrais un peu du fait que les gros tubes des années 80 faisaient beaucoup d'ombre aux dernières chansons que je trouvais beaucoup plus intéressantes.
Ouais.
À savoir Le Premier Jour, qui a été un gros tube, mais
oui, je comprends.
Tout d'un coup, Le Premier Jour, Soudain, tout ça, c'était moins important.
L'album Paris ailleurs et l'album Eden, qui sont les deux albums des années 90, oui, étaient un peu masqués par Tomber pour la France.
Complètement.
Pour
et Martial, donc, je me disais, si je commence par ces chansons-là, voilà, on les aura en pleine tronche.
Ouais.
Et voilà, donc ça leur donnera une lumière un peu différente.
Oui, mais
aujourd'hui, les choses sont différentes. Ouais. Et sur tellement d'années d'exercice, les chansons, elles prennent leur place. Donc, il y a les très gros tubes et il y a les chansons très importantes qui ont pas été des très gros tubes, comme Ouverture, par exemple. Si je fais pas Ouverture, maintenant, je me fais massacrer. au même titre que Weekend à Rome. Non, mais c'est important d'avoir des chansons qui ont un parcours bis, en fait. Qui sont pas des tubes, mais qui sont des chansons qui sont aussi importantes que des tubes.
Je crois me souvenir, sur Eden, que tu dois être le premier chanteur français à avoir eu un site internet.
Oui, c'est vrai.
Et un jeu
dans le disque,
dans une caserne mémoire, puisque j'avais joué dessus et tu me l'avais présenté à l'endroit où t'avais fait.
Exactement,
où t'avais fait
ce truc. Je me souviens que quand je présentais mon site internet et le jeu qu'il y avait dans le disque, les gens ne comprenaient pas de quoi était question.
Ouais.
Tu avais internet, mais ça sert à quoi?
Oui, et je me rappelle très bien du jeu. C'était un petit garçon qui se baladait dans une caserne. De temps en temps, il se faisait engueuler s'il tombait sur un mec. Puis après, enfin, je me rappelle très bien de ça. Et surtout,
oui, c'était,
internet.
C'était un parcours initiatique pour devenir adulte, en fait, qui commençait justement au Cap Falcon, l'endroit dans lequel j'étais quand j'étais enfant en Algérie.
Mais quand on y pense, c'est l'histoire de ta vie déjà.
Oui, bien sûr.
Ouais.
Mais à l'époque, j'avais ouvert ce voile. Eden ne parle que de ça, du fait que tout d'un coup, je raconte véritablement ce que j'avais occulté pendant des années, parce que j'étais pas prêt non plus.
Ouais.
On parle des choses quand on est prêt
militaire,
à...
Le militaire qui te gueule dessus, ça rappelle quelqu'un.
Oui, oui.
Et pour en revenir, c'était pas ça ma vraie question. Ma vraie question, c'était Internet. En 95, t'es le premier artiste à m'avoir parlé d'Internet.
Enfin, en France, en tout cas, j'ai eu le premier site d'artiste Internet.
T'as vu le truc d'entrée, où on t'a conseillé, comment ça s'est passé pour toi, pour découvrir...
Oui, c'est...
Enfin, je suis désolé, mais on a un précurseur, mais vraiment, quoi. Je me souviens très bien de l'histoire.
Alors, il y a deux choses. D'abord, je m'étais intéressé à toutes ces technologies de près. Ouais. Et ensuite, c'est Sophie Bramley qui a été une partenaire et qui m'a aidé à me présenter les gens qui étaient intéressants en France pour pouvoir créer un site qui soit joli, qui soit attractif et qui permette de montrer un peu ce que ça pouvait être, cet outil de communication.
T'en es où alors aujourd'hui ? T'es sur les réseaux sociaux, t'es présent sur Internet, tu suis encore ça, tu t'as pris du recul, t'es comment?
Bien sûr, c'est la manière de communiquer aujourd'hui qui permet justement de s'adresser directement aux gens qui s'intéressent à ton travail.
Ouais.
Donc, par exemple, sur toute la dernière tournée, je faisais un compte-rendu, j'ai écrit mon journal de bord de tous les concerts. Et c'était vraiment un exercice pour moi, parce que maintenant, c'est une mémoire partagée. Avec les fans, mais avec les musiciens.
Je voudrais que tu nous présentes le disque qui vient maintenant. Alors, parce que c'est plein de gens. Étienne Dao chante Paris sans interdit.
Ah oui.
Alors, c'est une chanson qui a été écrite par Arthur Baker. Tony Visconti l'a remixée. Explique-moi l'histoire de cette chanson qui est un titre que je passe déjà depuis quelques semaines sur RTL.
Alors, en fait, j'ai rencontré Arthur Baker qui m'a, dans les années 90 à New York, c'était ce grand producteur de dance incroyable.
Ouais. Et il vient du hip-hop, je crois, non ?
Oui, oui, oui. Et en fait, il a fait un album multi-artiste international, dans lequel il y avait Al Green, Jimmy Somerville, et tout ça, un tas de gens.
Et il voulait que... J'ai vu, moi, ça m'a
oui, oui, bien sûr.
Ouais.
Et il voulait, en artiste français, il voulait que je sois présent. Donc, il m'a envoyé un playback sur lequel j'ai trouvé une mélodie, j'ai fait un texte sur lequel j'avais des petits soucis. Donc, j'ai demandé à Caroline Loeb de venir me prêter main forte pour écrire avec moi.
Ouais.
Et ce disque est sorti un peu dans l'indifférent général. Enfin, il a c'est une chanson que j'aimais beaucoup, mais qui a pas eu
le succès.
Un parcours particulier. Et quand il a été question d'avoir un inédit, là, à plusieurs reprises, il y a des gens qui m'ont dit « Mais cette chanson, alors on peut plus la trouver, c'est dommage, elle était vachement bien et tout. » Et je me suis dit « Mais pourquoi pas faire une relecture, la réenregistrer ?» Et j'ai demandé à Johnny Hostile, qui a produit Savages.
Ouais, alors ça, je connaissais pas, j'ai fait mes recherches pour savoir que c'était un jeune groupe, en fait, qui est créé.
C'est un groupe de filles.
Absolument
captivant à voir sur scène.
Ouais.
Donc voilà, et on a demandé à Tony Visconti de mixer.
Un peu la classe, le mec de Bowie quand même. Enfin, le mec de Bowie, le gars qui a travaillé avec Bowie sur les grands albums.
Ça fait une chanson qui est à la fois classique et contemporaine.
Très rock.
Le rock, c'est assez facile à faire pour moi parce que c'est une base en fait. C'est ma culture.
Ouais.
Donc
j'aime bien cette définition de la pop d'ailleurs, dont tu dis que t'es plus libre à l'intérieur de la pop que du rock.
C'est pour ça que j'ai toujours
et de la chanson. D'un côté la chanson, de côté t'as le rock.
C'est de la pop parce que la pop me permet de faire du rock et qu'on se dise pas tiens c'est du rock donc il faut qu'il s'habille en noir tout le temps et que je sais pas quoi. J'utilise le rock comme j'utilise un orchestre classique parce que ça sert les chansons que j'ai écrites, c'est tout.
Donc Paris sans interdit sur RTL, la première œuvre. Alors j'ai voulu faire un truc hyper bateau pour cette séquence maintenant. 36 chansons, c'est beaucoup. On va essayer d'en raconter 2-3 si tu veux bien.
D'accord.
Dans celle qui jalonne ce best-of qui est sorti vendredi. J'ai commencé par Il ne dira pas. Un jour tu m'as répondu Il ne dira pas, ce qu'il a tout dit par la suite. C'est ça l'histoire.
C'est exactement ça. C'est ouais. Fou.
Premier single hein.
D'avoir premier flop. Mais c'est pas grave. C'est drôle en fait d'avoir écrit. En anticipation, une chanson sur laquelle je listais tout ce que j'allais pas dire. Enfin, c'est presque absurde et assez drôle en même temps.
Et t'as dit un autre truc ce matin, on réécrit toujours la même chanson, qui n'est rien d'autre que le développement de la première. Tu le penses par rapport à cette chanson-là ?
Oui, enfin je parlais du premier album, plus globalement. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai écrit cette chanson. C'est toujours un moment d'hypnose presque, le moment où on écrit les chansons. Je me souviens jamais de comment ça arrive, comment tout d'un coup... je sais qu'il y a un moment donné où je mets un point final, où je me dis, là, je peux plus rien rajouter. Et là, c'est vraiment le soulagement. Ça fait partie des moments les plus extraordinaires de se dire, là, je touche plus, c'est bien.
Et quand tu réécoutes, par exemple, quand tu travailles sur ce best-of, tu te dis pas, oh là là, je ferais pas comme ça aujourd'hui.
Je suis beaucoup plus bienveillant par rapport avec aux productions chansons. D'avant. Parce qu'en fait, en même temps, ce sont des chansons avec des arrangements qui capturent complètement un moment du temps et de la pop en France.
Ouais.
Et donc, elles peuvent pas être différentes, elles peuvent pas sonner différemment. Elles sont telles qu'elles sont et c'est bien aujourd'hui. Par contre, sur scène, je peux en faire ce que je veux. Ouais. Je peux les réarranger comme je veux. Ça, tous les coups sont permis. Mais de les mettre comme ça, côte à côte, dans un disque, ça raconte une histoire. Ça raconte quelque chose. Il y a une logique. Justement de l'évolution de ma production et de comment je suis aussi ce qui se passe à l'extérieur parce que je suis une éponge j'absorbe énormément de ce qui se passe à l'extérieur.
Hyper sensible.
Ah oui c'est une qualité un grand défaut mais
oui.
Pas fragile. Hyper sensible non
costaud en dur
plutôt.
Enfin t'encaisses.
Oui. Non je suis fort dans ma vie dans mes choix et dans la manière dont je conduis mon parcours, mon existence. Ça, oui.
Weekend à Rome.
Weekend à Rome. Ça, c'est la première chanson qui a commencé.
T'as toujours de la tendresse pour cette chanson, parce que des fois, il y a des artistes qui en peuvent plus de leur premier tube, qu'on demande tout le temps. À la fois, toi, il y a
des. J'ai retrouvé avec la dernière tournée. Ouais. Parce que pendant la dernière tournée, il y avait ce moment où je la chantais guitare et voix.
Ouais.
Et tous les gens la chantaient avec moi. Et donc, c'était un moment de partage qui inclut, comme ça, au milieu du show, faisait sens. Après, quand c'est tout d'un coup une chanson que je suis contraint de chanter, parce que vraiment les gens sont pas contents, là ça me gonfle. Mais si je choisis moi de la chanter à un moment opportun, parce que ça a un sens,
ouais.
Oui, vraiment. Et ça m'a permis de la redécouvrir là sur la dernière tournée et de voir à quel point tout d'un coup ça convoque des émotions de légèreté. Chez les gens et chez moi-même aussi.
Oui.
Et donc ça me fait plaisir.
Et c'est le grand paradoxe entre l'adolescent que t'es plutôt noir. Et la légèreté que tu recherches en chanson,
mais
très
oui,
vite.
C'est une manière de contourner.
Aradou.
Alors ça c'est une histoire très particulière. J'avais terminé un album et le dernier jour, David Monday, qui était un musicien avec lequel je travaillais, que je partageais avec Sinead O'Connor, il faisait un peu de la journée avec moi, un peu avec Sinead, et il m'amène une cassette en me disant voilà il y a cette chanson. Et je mets la chanson sur les oreilles et là je décolle de 3 étages. et je mets la chanson en boucle, et j'ai écrit la chanson dans la nuit, et le lendemain j'ai dit on l'enregistre, mais tous les musiciens étaient partis déjà, donc on l'a enregistré, lui et moi, il a joué tous les instruments, et on a conclu cette chanson qui n'aurait jamais dû exister. Et quand je suis arrivé en France, je fais écouter cette chanson à Françoise Hardy, qui faisait un album qui s'appelait Décalage. Mmh. Et elle tombe amoureuse de cette chanson, et je lui dis mais t'as qu'à la chanter, je te la donne, tu la prends. Et heureusement elle a eu la gentillesse de me la laisser.
Cette chanson me rend fou, et si je la réécoute, ça peut refaire la même chose. Au commencement.
Commencement, ça fait partie de certaines chansons qui proviennent du rêve, comme Le Grand Sommeil, comme Bleu comme toi. C'est-à-dire qu'elles arrivent, tout est déjà là au réveil. Donc il faut juste que je trouve un dictaphone ou un truc qui marche pour avant de perdre l'idée, parce que c'est très fugitif, c'est très volatile. C'est comme un rêve. On se dit tiens, on va le raconter, puis on l'oublie. Ah oui, j'en ai perdu plein. Si j'ai pas ce qu'il faut, parfois dans la journée, j'ai une idée que je trouve vachement bien et tout ça, mais j'ai rien. Maintenant, c'est bien avec les téléphones. Depuis quelques années, je perds moins d'idées.
Avec les copains chanteurs, j'ai souvent discuté du fait de faire des pauses, tu sais, de s'arrêter 1 an, 2 ans, 3 ans. Mm-hmm. Et il y en a un récemment qui m'a dit, ah mais non, mais t'es fou. Si je rate la chanson de ma vie, tu penses ça toi aussi?
Moi, je trouve que quand on fait de la musique, on s'arrête jamais. Il y a pas de bouton pause. C'est en permanence. Normalement, on traduit le monde tel qu'on le ressent. Donc, voilà, à travers son filtre, on écrit en permanence. Faire de la musique, c'est être jour et nuit en turbine permanente.
Il y a une de mes chansons préférées dans ton répertoire qui s'appelle Ouverture.
Mm-hmm. Oui, c'est vraiment une chanson qui a une histoire, parce qu'en fait, je voulais que ce soit le premier single de l'album Corps et Armes. En général, je tiens bon et je choisis. Et là, je me suis laissé convaincre à chaque fois, et donc cette chanson finalement est arrivée en 4e single. Et donc, comme c'était un 4e single, elle a même pas été envoyée aux médias, je crois. C'était un grand regret pour moi. Et cette chanson, j'ai commencé à la chanter sur scène, et c'est devenu une chanson de scène.
Bah ouais.
Et elle a pris son ampleur. Après, les gens se marient sur cette chanson. Donc, elle est à ce point. Non, mais sinon, je déconne pas. Elle est à ce point intime que les gens décident au moment où ils vont s'unir de m'inviter.
C'est chouette.
C'est
très touchant, c'est chouette.
Ça fait un truc triangulaire, ça me dérange pas. et c'est incroyable ce que cette chanson provoque, parce qu'elle raconte l'histoire à deux, mais elle est aussi comme une chanson collective. Quand je suis sur scène, c'est vraiment une chanson qui s'adresse à chaque personne qui est là. Et c'est d'une puissance, pour moi en tout cas, ça me remue à chaque fois.
Encore une chanson, Bachung. Je passe pour une caravane. On écoute ça, c'est RTL avec Étienne Dao.
RTL Nightlist,
la première heure.
Je passe pour une caravane, pour un chien qui n'en démord pas. Le labyrinthe conduit l'homme mobile à des étreintes, loin du réconfort. Passe de sas en sas, et mes visites s'espacent. Des ombres se chinent à me chercher des noises. Le plus clair de mon temps dans ma chambre noire. De l'étuve au blizzard, des coups de latte, un baiser, des coups de latte. Un baiser, des coups de latte, un baiser. J'passe ce silence, mes avatars. J'passe sur tes frasques. M'omnibiler, pourquoi? Pour un vasistas, loin du réconfort. Passe de sas en sas, et mes visites s'espacent. Mes élans me courent et m'entraînent vers d'autres riveraines, vers la grande inconnue, loin du réconfort.
sas, sans sas. Et te visite s'espace. Les ombres s'échinent à me chercher des noises. Le plus clair de mon temps dans ma chambre noire. De l'étuve au blizzard découle la latte. Un baiser.
Bachung, alors on a souvent cité te concernant Dutronc Hardy qui sont tes amis, ou encore Gainsbourg Birkin qui furent aussi tes amis.
Et Élie et Jacquenot, trois couples.
Élie Jacquenot, c'est mal. Mais moi je te vois aussi dans la famille Bachung, est-ce que je me trompe?
En ce quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et qui, paraît-il aussi, il y avait une réciprocité d'affection et d'admiration. On s'est rencontrés, on a fait un duo ensemble qui est très beau, qui est une reprise de Johnny Cash qu'on a. Pour l'invitation, j'avais fait un show télé qui s'appelle le Dao Show, en toute simplicité. J'avais un casting démentiel qui allait de R à Marianne Faithfull, Jarvis Cocker, etc. Yes. Et j'ai invité Alain à chanter. On a chanté une reprise de Johnny Cash qui s'appelle I Can't Escape From You. Et d'ailleurs, ce serait pas mal de l'écouter aussi un petit bout.
I've tried and tried to run and hide, to find a life that's new. But where I go, I always know I can't escape from you. A jug of wine to numb my mind, but what good does it do? The jug runs dry, and still I cry. I can't escape from you. These wasted tears are souvenirs of the love I thought was true. Your memory is changed to me. I can't escape from you.
C'est la dernière partie de cette émission, I Can't Escape For You, un duo avec Étienne Dao et Alain Bachung. Je termine par un questionnaire qu'on va qualifier de décalé, une série de combien? Combien d'heures de sommeil pour Étienne?
4 ou 5, j'avais l'habitude. Hein.
Combien de clopes par jour?
Plus une, je suis passé de 3 paquets à 0.
Verre d'alcool par semaine?
Ça je les compte pas.
Séance de sport par semaine?
3 ou 4.
Sortie par semaine?
7.
Est-ce que t'as des phobies ascenseur, avion, voiture?
Avion.
Sérieux?
Ouais.
Pourtant, tu le prends souvent?
Oui.
Bon, d'accord. Comment tu gères?
Du mieux que je peux.
T'aimes être seul?
Non.
Dernière cuite?
Il y a 2 jours.
Psychotrope ou pas psychotrope?
Plus.
Du tout?
Non.
Ton plus grand vice?
D'être trop perfectionniste.
Ouais, pas faux. Plus grande vertu?
D'essayer d'être le plus authentique possible.
Hypochondriaque ou pas?
Non.
Des cicatrices?
Oui.
Beaucoup.
Oui.
Oui, là, en ce moment, t'as été recousu pas mal ces derniers temps.
Frankenstein, un peu.
Des tatouages.
Oui.
5 fruits et légumes par jour.
Je suis végétarien, donc je suis obligé, oui.
Ah ouais. Il y a un plat auquel tu peux pas résister.
J'adore les pâtes, en fait.
Demain, tu deviens un dictateur, c'est ma dernière question. C'est quoi la première loi que tu promulgues?
Je remets la culture au premier plan.
Pas mal. Dans 5 minutes, c'est Étienne Dao qui va programmer la deuxième heure de cette émission. Je voudrais juste te laisser le dernier mot. Tu dis ce que tu veux. La seule chose que je te demande, c'est de dire RTL, il est 1h quand t'as fini, Étienne. C'est toi qui as le mot.
Moi, bien cher Eric, merci de m'avoir reçu. C'était très agréable de se revoir à chaque fois.
Ouais. Bon,
c'est de loin en loin, mais le contact se refait assez vite. Merci pour cette heure. Merci pour la suivante. Et j'embrasse tous les auditeurs qui sont restés avec nous, qui nous ont accompagnés. Et qui vont nous accompagner pour l'heure suivante. Il est 1h sur RTL.
Les informations présentées par Mathilde Chouin.
100 millions de pauvres en plus dans les 15 prochaines années, c'est ce qui pourrait arriver si rien n'est fait contre le réchauffement climatique. Alerte lancée hier soir par la Banque mondiale et ce, à 3 semaines du début de la COP21 à Paris. Les ministres d'une soixantaine de pays sont justement réunis depuis hier pour préparer cette conférence mondiale sur le climat et commencer à essayer de trouver un accord pour limiter à 2 degrés le réchauffement climatique. Mais selon une étude américaine publiée hier, même à 2 degrés, les grandes villes seraient toujours menacée par la montée des eaux. L'heure du bilan en Martinique, après les fortes pluies et les inondations qui se sont abattues vendredi sur l'île, l'état de catastrophe naturelle sera décrété le plus rapidement possible, annonce du Premier ministre Manuel Valls hier. La facture des dégâts est estimée à 1,5 million d'euros pour la remise en état des routes seulement. Le montant total sera connu aujourd'hui. Le Front National n'effraie plus les Français. 52% d'entre eux ne seraient pas gênés que le FN dirige une région après les élections le mois prochain. C'est le résultat d'un sondage TNS Sofres One Point pour RTL et Le Figaro. 35% des personnes interrogées.
Nightlist.
Ça y est, l'ange Étienne vient de nous quitter. Voilà, à partir de maintenant, c'est lui qui programme la musique. Nous allons entendre son âme, ce qui tapisse ses oreilles en ce moment. Vous allez voir qu'on va découvrir plein de choses. Moi, le premier d'ailleurs. Hein. Il m'avait promis qu'il me ferait découvrir des choses et ça a été le cas. Je pense que ça risque d'être aussi pour vous. Alors, vous êtes extrêmement pointu en musique, ce que je vous souhaite par ailleurs. Alors, il y aura des morceaux qu'on connaît, d'autres qu'on connaît pas du tout, des groupes qu'on connaît, d'autres qu'on connaît pas du tout. Bref, la deuxième heure de la semaine, après l'avoir entendu parler pendant la première heure, la deuxième heure de la semaine est programmée par Étienne Dao. Décollage.
Nightlist, RTL, Éric Jean-Jean.
Nightlist.